Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous toutes avez une feuille avec les textes pour aujourd'hui. Après un regard sur les textes du 1er siècle avant Jésus-Christ, consacrés à la déidaimonia, la conférence d'aujourd'hui se tourne vers un genre tout à fait différent, les textes de droit. Comment les textes juridiques de l'époque impériale abordent-ils le comportement religieux erroné? Comment la religion apparaît-elle dans les grandes recueils de lois? Qu'est-ce qui découle des commandements et des interdictions pour les questions de la déviance religieuse et des marges individuelles de l'action religieuse? Avant de me tourner vers les recueils de textes des droits de l'Antiquité tardif, je voudrais renvoyer à deux faits qui ensuite ne joueront plus aucun rôle. Le premier concerne la magie et sa lutte juridique, qui ne s'attendrait pas à leur traitement dans le contexte de ma question. Une thèse parue en 2003 porte le titre allemand « Religio et sacrilegium, Studien zur Inkriminierung von Magie, Heresie und Heidentum, étude sur l'incrimination de la magie, de l'hérésie et du paganisme, 4e au 7e siècle ». Mais ce lien n'est cependant pas évident. Les rédacteurs du Codex Theodosianus ne sont pas occupés des pratiques magiques dans le dernier volume de ces recueils de normes du 4e et 5e siècle qui est consacré au domaine religieux, de la croyance correcte et des évêques jusqu'aux hérétiques et aux païens. La criminalisation des délits comme l'empoisonnement n'a pas lieu dans une sémantique religieuse, même si phénoménologiquement, une proximité avec des autres pratiques magiques ou avec l'identité des personnes veut être donnée plus précisément. On élabore cela dans les textes littéraires. Dans le 7e livre sur l'administration de la province, De officio proconsulis, le légiste Sévérien Ulpien écrit sur les mathématiciens et les voyantes, sans sémantique religieuse. La punition doit être calculée d'après la mesure de l'enquête, d'après les contenus et les objectifs de l'exploration du présent et de l'avenir. Il manque l'empoisonnement dans la liste finale d'infractions religieuses dans le 2e livre des lois de Cicéron. Pour clarifier, ce résultat est un résultat textuel. Il concerne la sémantique des textes des lois et non sa pragmatique. Je ne veux pas contester le fait que des lois sont prises contre la blessure corporelle magique, mais non à la criminalisation des pratiques religieuses. Cependant, cette criminalisation vise des infractions concrètes. Apulée, dans le 2e siècle, n'a pas été accusé d'actes magiques abstraits, mais il a été accusé parce qu'il aurait commis une escroquerie de mariage en obtenant Pudentilla, une femme plus vieille et plus riche que lui, grâce à des sacrifices nocturnes, nocturna sacra. Il s'agit du reproche d'assassinat par son beau-frère Pontianus et de magica maleficia avec des conséquences graves, ainsi que de blessures corporelles par veneficia, comme on l'appelle dans la plaidoirie finale. Ce moment de la journée est bien sûr révélateur des mauvaises intentions. Déjà, Cicéron avait formulé sa méfiance envers les rituels nocturnes. Appulée conteste aussi le fait pour cette raison. Il met la crédibilité de témoins en question. Avant l'époque des preuves chimiques, les empoisonnements ne sont pas différents des attaques par malédiction. La victime ne porte pas de blessure. Tous les actes possibles peuvent avoir été causaux. La défense d'Apulée vise la plausibilité de son rôle en tant que philosophe. Il ne s'agit pas de religion. Le deuxième point concerne la législation sur les collèges. Le droit romain d'association est ancien. Il est attribué à Numa, qui doit avoir autorisé les collèges de métiers et qui doit avoir fondé les collèges sacerdotaux. Il semble cependant qu'une description juridique des associations ait d'abord été donnée avec des lois particulières des collegiis depuis César et Auguste. Un cadre juridique strict n'est pas non plus créé à l'époque impériale. La coutume est fixée par des règlements pour des raisons d'opportunité politique, par des jugements des cas isolés et une pratique probablement tout à fait différente de la formation et de la surveillance juridique des associations. Tout cela n'a rien à voir avec le droit de religion. Sans doute, des associations de fonctionnaires religieux, sacerdotes, symphoniaci, ou un groupe local de fidèles d'un dieu, cultores, cherchent aussi, dans certains cas, la fiabilité du statut d'un collegium. La figure du collegium ou du corpus, de même que l'association politique, la civitas, est juridique et elle est importante en tant que corps, en tant que porteur possible des droits de propriété qui peuvent interagir avec les autres, des personnes naturelles du même niveau, précisément comme des personnes juridiques. Elles sont aussi importantes en tant que forme d'association qui, différemment de la forme sociale de la famille considérée comme naturelle, peuvent mutuellement souscrire des obligations dans des contrats libres qui sont aussi valables dans l'espace public. Cela relie aussi les institutions mentionnées l'une à l'autre. Pour s'assurer que le legs testamentaire envers l'Église reste valide, Constantin considère cette dernière comme une association dans une loi de l'année 321. Et je cite la traduction de Delmer, c'est le premier sur la fiche, « Que chacun puisse en mourant laisser ce qu'il voudra de ses biens à la très sainte et vénérable assemblée concilio dans le texte latin catholique. » Si, ici, Constantin ne pense plus seulement qu'à l'Église de la vie de Rome, ceci n'est pas clair. Cependant, déjà en 313, avec le prétendu édit milanais de tolérance transmis par Lactance, la liberté de religion n'avait pas seulement été accordée aux différents chrétiens. Leurs unions locales, conventicula, avaient aussi été reconnues comme un corps interrégional, corpus, en tant que porteur de propriété et destinataire des restitutions. Les collèges ne sont pas compris comme une forme sociale particulière de religion. Lorsque Tertullien décrit le christianisme dans son Apologie, le prochain texte, sous le recours du droit d'association, il ne s'agit pas pour lui de la justification de l'exécution des normes légales romaines. il argumente sur l'esprit du droit d'association qui jugule la formation des partis, factiones, parce qu'il pourrait troubler la paix publique. Réunion des conseils pour le bien-être public, curia, et non parti serait la désignation correcte. La multitude des synonymes utilisés dans le texte du Tertullien montre le manque d'une terminologie juridique claire. Cette situation reflète aussi le passage fréquemment cité du troisième livre des institutions des Marcianos dans les Digestes 47, page 2. Cette religion est causa cuire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur. Ici, il ne s'agit pas d'un privilège particulier pour les associations religieuses. Il s'agit plutôt, dans ce court titre 22 sur le collège, dans le livre 47 du Digeste consacré au droit pénal, de la zone grise dans laquelle les rassemblements occasionnels ou réguliers se condensent en une formation illégale d'association. La religion est une raison légitime au attroupement, pour trouver une traduction appropriée de coitus, mais il ne faut pas non plus qu'elle contribue à la formation d'association. Ainsi, la conséquence du commandement n'est que de limiter les affiliations au collège à une seule. Par conséquent, les descriptions de l'hérétique restent encore vagues dans le Codex Theodosianus. La prochaine citation. Jadis, en faveur de la religion de la sainteté catholique et pour que cesse l'usurpation des rassemblements hérétiques, coitus, que leur réunion, conventus, se soit tenue dans les villes ou dans les campagnes en dehors des églises où règne notre paix, nous avons ordonné que soient confisqués tous les lieux où, sous le faux couvert de la religion, des autels, altaria, auraient été dressés. À côté de telles réprimandes sur les locaux, sur le rassemblement temporaire, apparaît clairement l'idée de secte qui implique, à la différence d'autres termes, une cohérence suprarégionale. Dans leur désignation, de telles sectes renvoient de manière typique à ceux qu'elles suivent. Il s'agit aussi précisément de cela dans le chapitre déjà cité de Tertullien qui suit de non Christiani. Pagani reste ainsi une catégorie résiduelle et décrit, comme nous le verrons, une déviance individuelle et non une secte ni des rassemblements. Le Codex Theodosianus, le Code théodosien, déjà mentionné plusieurs fois, représente la source la plus importante sur le droit de la religion de l'Antiquité tardive. Promulgué en 403-8, il représente le premier recueil romain officiel des lois depuis les lois des 12 tables, un siècle avant le Corpus Juris Civilis de Justinien. Dans son 16e livre, le Code rassemble des normes à partir de la tolérance du christianisme en 313, pas avant. Dans l'ordre systématique, comme dans le remaniement rédactionnel des textes, il est aussi avec cela un témoignage d'un droit de religion chrétiennement marqué du 5e siècle, même si je me concentrerai surtout sur les lois du 4e siècle par la suite. Pour cela, j'ai eu recours intensément à l'édition à la traduction et au commentaire de Roland Delmer de l'année 2005. On trouve des lois plus anciennes, d'un côté, dans le recueil encore plus tardif du Digest, dans les commentaires des juristes. De l'autre côté, dans des recueils de normes privées, transmis seulement par fragments ou de façon indirecte, comme le Codex Gregorianus ou le Codex Hermogenianus à l'époque de la Tétrarchie. Par rapport à la religion, ces fragments sont peu prolifiques. Ils ne donnent aucun indice qu'il y avait dans ces recueils un établissement des lois concernant la religion qui serait comparable au livre final du Codex Theodosianus ou aux lois qui ouvrent le Codex Justinianus. Cependant, certains fragments montrent aussi à quel point l'image d'une législation de la religion, avant tout chrétienne, doit être examinée avec nuance. Ainsi, la collatio, la comparaison mosaicarum et romanarum legum, cite une lettre des tétrarques imprégnée des langages religieux provenant du titre De Maleficiis et Manichees, probablement du livre 14 du Codex Gregorianus. Le texte, dans son sémantique, montre l'aversion pour les changements religieux. Cependant, il montre surtout comment la religion est vivement considérée comme la base des valeurs sociales, voire de la vision du monde. Le texte devient toutefois plus concret dans la distinction ethnique perse. La nouvelle religion est classifiée et dénoncée en tant qu'étrangère et que politique extérieure clairement hostile. Si l'on remonte encore plus loin, on tombe, à l'exception de certains règlements, sur les normes relatives à la religion des lois municipales du début de l'époque impériale. Comme je l'ai montré ailleurs, il s'agit de ces constitutions et non d'un droit de religion. Elles se concentrent plutôt sur les sacra publica, le culte public financé ou cofinancé par chaque civitas respectif. Avant tout, l'infrastructure de ce segment de la pratique religieuse est décrite, les sacerdos, qui sont étroitement coordonnés par la municipalité. Le contenu, la définition des cultes est confiée tout d'abord aux fondateurs de la colonie. Le nombre de dieux est assez restrict. Dans le cadre d'une théologie de la présence, d'une conception locale des dieux, cette réserve de transférer des dieux est compréhensible. Ces lois supposent clairement qu'il y a un large domaine de la religion qui n'est pas à régler s'il reste seulement sans interférence avec la structure politico-municipale de la communauté. Ce n'est pas qu'un instantané. La vieille tradition séculaire de la fondation des colonies pourrait aussi avoir mené à un cadre législatif de telle fondation qui n'a que peu gêné les techniques de la législation des cités romaines et qu'elle a même offert des possibilités de systématisation à poursuivre. Quoi qu'il en soit, on avait à la faire pour les nouvelles fondations. Déjà, une inscription de l'année 169 avant Jésus-Christ indique un tel acte constituant. Et vous pouvez trouver le texte sur la deuxième page de l'année épigraphique. Titus Annius Luscus, fille de Titus, triumvir pour l'établissement des colons. Il a subvenu à la construction de ce temple et l'a dédicacé. Il a composé et délivré des lois pour la colonie. Et trois fois, il a fait partie de son Sénat. Devant cet arrière-plan, la forme des règlements concernant la religion est révélatrice dans la copie flavienne de la loi de la colonie Julien d'Urso Ambetique, Hispania Baetica. Il ne s'agit pas d'un cadre légal pour la ou les religions, je me répète, mais d'une définition positive des éléments centraux du culte public et d'une exclusion implicite des autres formes de religion de la sphère publique. Il faut retourner au point de départ. Quel sujet la législation de la religion de l'Antiquité tardive traite-t-elle? Quels domaines sont soumis à un règlement? Ce sont trois ensembles de règlements que je voudrais examiner de plus près. Le domaine des sacerdoces présente probablement la plus grande densité de règlements. Ceci est issu d'une longue tradition. Les normes juridiques sur les sacerdoces remontent au début de la République. Il s'agit rarement de la redéfinition des clergés comme dans les situations de fondation des colonies. Ce sont plus fréquemment des questions, des critères d'autorisation et des procédés de distribution. À ce propos, les règlements législatifs se trouvent toujours face au problème de régler une institution religieuse et enfin de comptes voulus par les dieux, sans léser nécessités religieuses spécifiques. Celle du IIIe siècle avant Jésus-Christ avait développé l'élection par le peuple du Pontifex Maximus par seulement 17 des 35 tribus, en d'autres termes, par 49%, une petite minorité du peuple, auparavant tirée au sort, montre le raffinement d'une telle slalom, d'une telle chemin de crête. Les sacerdoces sont l'interface centrale entre un culte organisé et l'administration publique. John Scheidt a examiné en détail l'ajustement des rôles sacerdotaux aux autorités municipales et les limites de cet ajustement. Cet ajustement est avant tout juridique, avec l'octroi de privilèges, d'avantages fiscaux et de la libération des charges publiques et des obligations de servir. La portée et la durée de tels privilèges ont besoin des règlements les plus précis possibles à cause de leurs conséquences fiscales et juridiques. Un règlement de l'époque impériale contenu dans le Fragmenta Vaticana règle la libération de la tutela de celui, je cite, qui exécute dans le port le culte pour le bien-être de l'empereur en raison de la prophétie de Archigallus. En conséquence, une longue série de lois inclut aussi les spécialistes religieux des chrétiens dans cette construction publique des rôles. Les deux plus anciennes lois du 16e livre du Codex Theodosianus, bien datable du 21 octobre 313, règle ainsi l'exemption de l'obligation de servir. Les formulations de la deuxième loi montrent dans sa terminologie la structure de la justification. C'est la dernière citation sur le page 2. Je traduis. Que ceux qui consacrent les ministères de la religion au culte divin, c'est-à-dire qui sont appelés clercs, soit excusée d'absolument toutes les charges, afin que la malignité sacrilège de quelques-uns ne les détourne pas du service divin. Le titre 2 sur les évêques et les clercs forme une des parties les plus longues du livre 16. La séquence temporelle des règlements montre le double besoin d'un règlement. Si d'abord les libérations sont au premier plan, il s'agit ensuite d'empêcher de plus en plus les abus, l'évasion fiscale dans le sacerdoce. Cependant, la motivation de cette forme de déviance est à peine spécifiquement religieuse. L'effort perceptible pour traduire des règlements internes d'un domaine précis, à savoir la religion, par des règlements valables pour tous dans le domaine public, cet effort est ici beaucoup plus clair que dans le droit d'association, avant comparable au droit de la famille ou au droit de succession, mais comparable au droit privé dans l'ensemble. Au début du digeste, une citation du juriste sévérien Ulpien, qui définit le droit public des traditions républicaines, dit, sur la page 3, « Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. » Cette citation montre dans sa forme étrange une liste qui épuise à peine la difficulté à positionner la religion dans le systématique du droit et montre la claire volonté de juste dissimuler ces problèmes de l'allocation de la religion au aréal public. La notion de sacrilège, qui apparaît dans la citation précédente, a une sémantique intéressante qui mène à un deuxième domaine des normes, les conditions de propriété dans le domaine religieux. L'étymologie du mot sacrilegus, comme celle de sacrilegium, est complètement transparente. Prendre, importer ce qui est sacré. Caractériser le vol des objets sacrés. Dans ces sens techniques, on trouve le mot dans l'ensemble de la tradition juridique. En dehors des textes juridiques, le mot accepte une plus vaste signification. Il devient une injure qui exprime l'abjection la plus profonde, totalement inacceptable du point de vue moral. Dans ce sens, le mot est justifié déjà chez Plaute et dans les témoignages littéraires les plus précoces. Dans la tradition juridique, cette utilisation métaphorique est d'abord démontrée par la sémantique chargée de religion des lois tétrarchiques et, comme Delmer l'a déjà observé, elle est ensuite de plus en plus élargie à partir des années 360. En 386, la simple violation du commandement du dimanche suffit déjà pour utiliser ce mot. La continuité de la thématique, qui a aussi une place importante dans la modeste liste des lois de Cicéron, est remarquable. La forme la plus sévère et la plus durable de la délimitation des frontières a lieu dans le domaine du droit de propriété. Il n'est pas valable ici que la punition de la violation des normes soit l'affaire des dieux. Le sacrilège est passible des sanctions pénales. Cependant, la propriété divine aussi, ainsi protégée, est délimitée avec précision. Il s'agit de la propriété des dieux qui a été publiquement constitué par la communauté. Il s'agit des espaces sacrés établis par une bénédiction publique, consecratio, et des objets s'y rapportant. Dans le sens technique, la qualité de sacer ne revient qu'à eu. Jean Scheidt, encore une fois, est d'accord en cela que, de nouveau clairement ici, on renvoie à la responsabilité de la communauté dans ce domaine de la religion publique. Il n'est pas moins intéressant, cependant, que ce fait spécifique soit métaphoriquement étendu au-delà du discours public à une caractéristique attribuée individuellement. Le sacrilège est le prototype de la déviance religieuse. La concentration sur le public soulève des questions. Comment la religion privée est-elle traitée? Le droit de sépulture donne une réponse importante. Il trouve un traitement encore plus large dans une continuité comparable depuis le texte des droits les plus précoces. La tombe, élaborée à travers des décisions individuelles et une propriété juridiquement légitime, la tombe gagne un caractère religieux dès qu'un cadavre ou, selon le cas, des restes de cadavres y sont déposés. Du point de vue terminologique, cela est différencié par la notion de religiosos. Vu le discours continu contre le luxe des tombes, ces lois ne sont pas dirigées en priorité contre le vol de la propriété mobile, le pillage de tombes, mais contre les changements de la possession du sol, donc contre sa désaffectation pour un usage économique ou, surtout, pour une utilisation particulière comme lieu d'inhumation. Par tous les discours de dimanis collectif, la tombe est attribuée à un défunt individuel. L'analogie au sacrilège est nette, tout comme le clerc dégradé dans la sévérité de la sanction comparée à l'infraction d'une propriété divine ayant la qualité de sacre. L'assimilation religieuse est de nouveau effectuée grâce au rôle des sacerdotes, précisément à celui des pontifices. Une surveillance juridique des deux domaines leur est attribuée dans la systématisation cicéronienne, comme dans quelques inscriptions funéraires qui, il faut dire, sont extrêmement sporadiques. La référence aux tombes ne répond pas complètement aux questions que la définition du sacrilège soulève. Cela est aussi clair pour les juristes qui abordent dans la discussion du droit de sépulture le plus vaste domaine des lieux de culte constitués en privé. L'élévation du statut, motivée par la présence du cadavre, n'est cependant pas efficace ici. Les sacraria, les lieux de culte construits sur un terrain privé ou dans la maison, ne jouissent pas de la protection du statut juridique du sol religiosus. Ces mêmes sacra, dont la continuité est l'objet des discours juridiques, sont conçus par conséquent comme fondamentalement mobiles. Leur temps passé dans la tradition familiale et non leur présence dans un même lieu constitue le critère de qualité. La mobilité fondamentale distingue le privé, mais pas les cultes publics. Ces derniers sont aussi conçus comme fondamentalement mobiles. On trouve leur déplacement complet aussi bien dans les récits de la fuite de Troie de Virgile que dans les récits contemporains de Tite-Live de l'expérience de pensée de Camille après l'invasion gauloise avec le transfert à pain imaginable à Veillé. Dans le rituel de l'évocatio, l'approbation des dieux concernés est demandée. Terminus, le dieu des bornes qui refuse de donner son approbation, est une exception de mise en scène narrative. Sans doute, les bornes sont aussi mobiles avec la succession des changements légaux des propriétaires. Ici aussi, c'est le droit foncier qui sanctionne la déviance religieuse, l'exhumation des bornes. Les tombes sont aussi véritablement mobiles. Sans monumentalisation, la mémoire du lieu dépasse à peine la période d'une génération d'environ 20 ans dans des conditions normales. La séparation entre sacer et religiosos, qui est apparemment si claire, continue à être sapée par l'étroite définition de lager publicus, le sol public en tant que base des consécrations. Comme il manque cette qualité de sol dans les provinces, la distinction mentionnée n'est valable ici que par analogie ou doit être restituée par l'introduction d'un empereur qui a le pouvoir de dédier. Le manque ou l'existence de sanctions juridiques n'est pas sans conséquence. Où les sanctions existent, elles exigent un marquage clair des limites, loin du marquage architectural d'un foyer, d'un temple ou d'une inscription funéraire. Où le caractère sacral d'un lieu privé devient en priorité visible dans l'utilisation religieuse, dans les pratiques sacrales, le marquage des limites définit aussi ensuite une surface sacrale, même si aucune utilisation n'a lieu. Ceci détermine encore la problématique du droit au IVe siècle. Les lieux de culte privés ne prennent pas une forme architecturale, mais ils sont identifiés par des traces de culte. À l'inverse, comme il est dit, les lieux et les pratiques ont été séparés. Constantin autorise la nouvelle construction à Ispellum d'un temple de la gens Flavia, dans la continuité de laquelle il place sa famille, tant qu'il ne mène pas à des pratiques illégitimes, à la superstitio. En tant que lieu d'art et de divertissement, les temples sont encore entretenus après le tournant théodosien. Ce sont par conséquent vers les pratiques que nous devons nous tourner maintenant. Les normes du code théodosien sont rarement des lois générales. Vu les lettres, les rescrits, les édits, la portée de l'autorité reste vague. Ceci marque le débat de la recherche sur les restrictions des sacrifices entre Constantin et Théodose. Les mêmes normes sont-elles répétées à cause d'un manque d'observation? Sont-elles peu à peu élargies aux pratiques interdites? Du point de vue spatial, ont-elles apporté toujours plus à l'autorité? Il y a un consensus dans toute cette différence et il doit être souligné. Un motif central de l'interdiction des sacrifices est l'intention d'interdire avec eux une pratique importante de la divination. Dans la compréhension contemporaine, la divination ouvre l'accès à des informations sur des événements futurs d'une importance politique capitale, jusqu'à la mort de l'empereur et des Césars. C'est une crainte ancienne qui est déjà démontré au début de l'époque impériale. Au vu du changement rapide des souverains et des dynasties, le sujet est d'actualité depuis le IIIe siècle. Quelque chose de nouveau s'est encore ajouté. La plus ancienne norme du Codex Theodosianus contre la divination destine de façon stricte l'examen des entrées domestiques d'un côté et la ruspicine qui est effectuée dans un espace public et donc visible à l'autre côté, même si les buts sont privés. C'est la troisième citation sur la page 3 du Codex Théodosien, livre 16, 10 et 1. Je cite l'empereur Constantin Auguste a Maximus, Imperator Constantinus Augustus ad Maximum. S'il arrivait qu'une partie de notre palais ou de tout autre édifice public soit frappée par la foudre, que les haruspices recherchent le son du prodige en respectant les formes de l'ancienne observance et qu'un rapport résumé soit porté en toute diligence à notre connaissance. Il est même permis à tous de se servir de cette coutume pourvu qu'on s'abstient des sacrifices domestiques qui sont tout particulièrement interdits. Le mandat du préfet de la ville de la fin de 320, début 321, enregistre une interdiction de l'année 319 de la ruspicine domestique. Marie-Thérèse Feugen a montré qu'ici, il ne s'agit pas seulement des mesures disciplinaires. Depuis l'époque sévérienne, selon Feugen, se développe l'idée d'un monopole impérial du savoir. Les ressources transcendantales du savoir, la révélation divine concernant tout d'abord l'empereur de façon fondamentale. Devant cet arrière-plan, la concentration sur la divination qui veut exactement développer ses ressources devient compréhensible. La tentative de contrôler la divination est, et il faut repetir, ancien, comme divers textes démontrent. Il est cependant important pour la question sur la déviance religieuse que la divination ne soit pas seulement considérée comme une coutume. Elle est de plus en plus fréquemment considérée de façon explicite comme une pratique religieuse, comme quelque chose qui est étroitement lié aux formes habituelles de communication avec les dieux. Cela non plus n'est pas nouveau. Déjà, Cicéron a attribué les pratiques divinatoires les plus importantes aux porteurs du rôle qu'il a classifié comme sacerdotes publici. Mais maintenant, l'essence de l'association se renverse sous le signe de l'interdiction. Déjà, l'accès au temple et avec cela l'utilisation d'images divines sont soupçonnés de servir aux pratiques divinatoires. Il est interdit. Prochaine citation. Il nous a plu que le temple soit immédiatement fermé en tout lieu et en toute vie et que leur entrée soit interdite. Ainsi, la possibilité de pécher sera refusée à tous les hommes perdus. Nous voulons également que tous se tiennent à l'écart des sacrifices. À cette interdiction, qui est bien à dater de l'année 356, s'y rattache l'interdiction traditionnelle sans destinataire de la même année. Nous ordonnons, la prochaine citation, nous ordonnons de soumettre à la peine capitale les individus convaincus de s'être consacrés au sacrifice ou d'avoir honoré les statuts. Ma supposition que dans ces normes, la divination soit un adversaire implicite trouve une confirmation dans la formulation d'une lettre de 381 au prophète du prétoire Florus, qui suit immédiatement dans le recueil et sur le feuille. Si quelqu'un, agissant comme un fou sacrilège, s'est mêlé de consulter les choses incertaines par des sacrifices prohibés diurnes et nocturnes, et croit bon de s'approprier une chapelle ou un temple, ou à la pensée d'y entrer pour commettre un crime de ce genre, il doit savoir qu'il est passible de proscription. C'est en effet par une juste disposition que nous avons averti que Dieu doit être honoré par des chastes prières et non pas profané par de sinistres incantations. Un cas transmis par Amiens Marcellin confirme le but de ces normes. L'accusé inculpé pour l'exécution d'un sacrifice est acquitté parce qu'il peut rendre plausible le fait qu'il n'ait pas organisé le sacrifice dans de buts divinatoires. La dénégation de l'exécution du sacrifice n'a visiblement pas été choisie comme stratégie de défense. L'interprétation est encore confirmée par autre chose. Dans les lois des années 360 jusqu'aux années 380, dont sous des conditions d'interdiction de plus en plus globales, on s'efforce d'obtenir une différenciation. Dans les normes répressives du 9e livre, la forme d'aruspicine que ne nuit à personne est autorisée. La divination et la religion ne sont pas semblables, mais elles présentent une grande quantité d'intersections dans une manière de voir tout à fait différente. Les interdictions s'appliquent juste ici. On trouve juste ici des arguments stratégique pour des interdictions plus larges. La pratique religieuse domestique, qui en principe n'est pas soumise au regard contrôlant du public, est pour cela placée sous des soupçons généraux. Cela devient plus clair avec la concrétisation de l'interdiction de 381 concernant le sacrifice, la fréquentation des temples et l'adoration des images du culte déjà citées. Dans le cadre bien détaillé des 392, on tente d'interdire chaque forme de culte privé, municipal comme rural, dans la maison comme sur un terrain privé. Ce qui est exprimé ici contre le pagani n'est cependant qu'une variante de soupçons contre le culte domestique en général. Kim Bowes a montré de façon convaincante comment, dans le domaine chrétien également, certains, à la surface des différentes dogmatiques, présentent des réserves à travers un tel soupçon général sur les pratiques culturelles dans un petit cercle. Néanmoins, la concentration sur certaines pratiques rituelles est aussi à retenir. Au centre se trouve le sacrifice sanglant. La tentative citée plus haut de distinguer aussi différents types de prières reste isolée. Un large champ de pratiques, comme par exemple l'usage d'amulettes, n'est pas thématisé dans les textes juridiques. La religion votive, qui était un élément de la pratique religieuse traditionnelle si important, devient même protectrice. La concentration sur le sacrifice pourrait lier plusieurs motifs ensemble. La critique philosophique du sacrifice a pu être surestimée dans la recherche antérieure. La place centrale que la pratique du sacrifice devrait avoir gagnée par son utilisation emblématique pour le rôle religieux central de l'empereur est ici à peine à sous-estimer. Les lois du IVe siècle ne font pas de tentatives intensives pour définir le paganisme comme une secta, une religion particulière. Le recueil du Code théodosien ne vise pas non plus un enregistrement complet des pratiques illégitimes. Les interdictions se concentrent sur le minimum. Les textes trahissent le fait que l'on est en conscience de la problématique de la justification, de la problématique des indices, de la problématique de l'ambiguïté de beaucoup de pratiques. Ceci, que nous appelons aujourd'hui régulièrement religion, mais que les textes contemporains n'appellent de cette façon qu'à l'occasion seulement, réussit surtout dans le rapport avec la divination. La déviance religieuse est par ce moyen une pratique religieuse avec des intérêts illégitimes. C'est différent dans le cas du maleficium, où la sanction du dommage manifeste est pensée, la lutte est pensée contre la divination des possibles conséquences des dommages et contre la question de la possession légitime du savoir. Le savoir est cependant plus qu'un savoir divinatoire dans le 16e livre. Le concept encadre les recueils entiers. Le premier titre traite de la Fides Catholica. Elle est comprise comme une norme pour tous les peuples qui la reçoivent des Romains, qui l'ont reçue de Pierre lui-même. La définition suit le modèle de la secte. Il s'agit du Christianorum Catholicorum Nomen qui est déterminé par la succession locale des têtes de l'école. Le premier chef, Pierre, est mentionné ainsi que le dernier, le chef actuel, Damas, avec une référence à Pierre, évêque d'Alexandrie. Une définition plus profonde du contenu n'a pas lieu non plus si les autres s'intitulent hérétiques dans des sectaires dont les assemblées ne pas méritent pas le nom d'Église. Les sectes ne sont plus des variantes légitimes d'un effort semblable. Cette norme de l'année 380 est seulement une norme unique mise en avant, qui illustre les conséquences pratiques d'un ensemble caractéristique. On ne peut exiger en aucun cas de telles personnes, homines christianae religionis, qu'elles soient désignées comme gardiens du temple. Celui qui le fait malgré tout est puni. Le savoir religieux d'un individu a des conséquences publiques pour tous. Le dernier titre court De religione du Codex traite aussi de savoir religieux. La dernière loi de 410 assure aussi les privilèges de la foi catholique en regard de la nouvelle superstition. L'édit précédent de 405 adressé au proconsul d'Afrique démontre la propagation générale du savoir religieux ceux dans la partie inférieure de la page 3. Volumus ut omnibus. Nous voulons qu'il soit notifié à tous que l'on doit observer l'unique et véritable foi catholique du Dieu Tout-Puissant que confesse une croyance droite. Credulitas, crédulité, n'est plus un indice de superstitio. Au contraire, où un savoir précis et incontesté est un devoir, la crédulité est devenue une vertu. Le dernier titre du code constitue une étape importante dans le développement de la notion de religion et de la localisation sociale de la déviance religieuse. La première loi du 20 août 399 montre la religion comme un domaine social propre en regard de la juridiction. Elle confère au droit de religion interne un statut public et elle détermine sa portée. Sur ce point, le droit de constitution de religion se trouve ici sous des conditions de monopole. C'est la citation la dernière sur la page 3. Quoties de religione. Chaque fois qu'il y a une action judiciaire concernant la religion, il convient d'en référer aux évêques. Pour les autres causes, celles qui relèvent des juges ordinaires ou des usages du droit public, il faut tenir audience selon les lois. Les parties de la même loi transmises dans d'autres endroits du code montrent ici que la religion devrait être fixée en tout. Page 4, ut profanos. De même que nous avons déjà aboli par une loi salutaire les rites profanes, de même nous ne souffrons pas que soient abolies les réunions festives des citoyens et la liesse populaire. En conséquence, nous décrétons que, sans sacrifice et aucune superstition condamnable, des réjouissances soient offertes au peuple selon la coutume ancienne et que se réunissent aussi les banquets des fêtes lorsque l'exigera la célébration des vœux publics. Et en continuant, qu'au nom d'un bienfait de nos sanctions, personne ne s'efforce de détruire des temples vides de tout ce qui est illicite. Nous décrétons en effet que ces édifices doivent demeurer intacts. Mais si quelqu'un était pris en train de sacrifier, qu'on sévisse contre lui selon les lois. Après enquête, on devra déposer sous le contrôle de ton bureau les idoles qui apparaîtront être encore maintenant l'objet d'un culte de la vaine superstition. Il manque ici une sémantique claire, mais l'effort d'une délimitation terminologique est net. Profanus ritus, vana superstitio désigne de façon abstraite ce qui est interdit, vetus consuetudo ce qui est permis. Dies festus et aedes peuvent continuer d'exister si une utilisation illégitime, comme elle se manifeste spécialement dans les sacrificia, est absente. Les images divines elles-mêmes sont entretenues comme une forme d'art. On ne trouve pas le mot ici, mais à d'autres endroits, lorsque le culte est exclu. La stratégie ne marche pas pour la christianisation, mais pour la perception et la protection par l'empereur. Elle est étroitement définie avec la délimitation de la religion en dehors du domaine public. Les conséquences de la juridiction de la religion interne sont limités par l'exigence de l'empereur et par l'exigence des mœurs plus traditionnelles. La notion de culture n'est pas encore utilisée pour ce contraste. Les contours des normes relatives à la religion du code théodosien devienne encore plus claire comparée à la législation de la religion de Cicéron dans les concordances qu'il comme dans les différences. Le rôle des sacerdotes est central dans les deux entreprises lorsque leur identité a également changé. Les sacerdotes ou les clercs marquent symboliquement le domaine religieux. Avec leur savoir ou leur juridiction, ils durent dans l'ensemble. Du point de vue matériel, ils représentent une partie importante de son infrastructure et jouissent des privilèges correspondants. La définition spatiale de la religion est devenue moins importante. La demande de Cicéron d'une identité spatiale claire a cédé à la nette restriction des lieux légitimes. Où ce ne sont pas des églises, les lieux sacros légitimes deviennent, à la fin du IVe siècle, des lieux d'assemblée simplement populaires ou hérétiques, à la rigueur des lieux de plaisir esthétique. La diminution de la distinction directrice du sacre et des profanos exempte aussi dans les textes des droits le mot sacrilegus de devenir une injure. La distinction entre public et privé reste importante et problématique. La légitimité du privé et du domestique dans le domaine religieux baisse, même si les interdictions explicites restent ponctuelles. Déjà pour des raisons pratiques, l'intérêt et le domaine des règlements se trouvent surtout dans le public et le visible. La formation des normes religieuses concrètes, qui elles-mêmes ne sont pas détaillées, particulièrement dans les textes du cours théodosien, est cédée aux traditions des communautés religieuses. Celles-ci attirent l'attention par leur continuité de référence et par leur légitimité locale. Les maiores, les antenates, ou Pierre, offre la garantie de la justesse. Et bien sûr, les deux ont parlé à Rome et aux Romains. Ici, le texte postérieur est toutefois plus explicite. La Rome de l'Antiquité tardive est la norme du monde. Pour Cicéron, les ancêtres italiques aussi veulent avoir énoncé ce qui est durablement valable. L'universalité de leur norme doit aussi se manifester par leur comptabilité avec celle de la Grèce. Et finalement, où Cicéron et aussi les fragments tétrarchiques standardisent la religion interne hors du milieu de la communauté de droit, la législation de l'Antiquité tardive examinée offre une perspective qui détermine la place des religions dans la communauté et qui limite, elle, comme une autre, un aliot. Les bases d'un droit européen des constitutions de la religion sont en effet jetées ici. Le rendement de mon analyse reste limité pour la question de la déviance religieuse. La place prédominante que prend la divination, notamment la divination privée, dans la politique d'interdiction indique néanmoins un nouveau foyer du discours antique sur la déviance religieuse. C'est l'accès immédiat à un savoir authentique et qui n'est pas contrôlé ailleurs de la volonté divine ou de l'ordre mondial divin qui devient la pierre d'achoppement. En particulier, les sacrifices, la fréquentation des temples et le contact direct avec l'image divine permettent ce savoir. Ces trois pratiques deviennent aussi l'objet de différentes critiques, mais cette critique plus ancienne du sacrifice des images et, comme nous l'avons vu, du temple ne joue aucun rôle important dans les textes des droits. Ou elle ne relaye pas la foi traitée didactiquement de crédule, l'effort individuel pour un savoir religieux authentique et suspect. Merci.